Bon, de retour avec un de nos préférés à l'émission, le devin, David Etegui. Comment ça va, David?
Comment ça va, David?
Comment ça va, mes amis?
Ça va bien, David. Merci, ça va bien.
Super.
David,
super.
On est tellement content de te parler. T'as fait réagir énormément, David, dans les réseaux sociaux, dans les derniers jours. D'ailleurs, on va faire jouer une clip que tu avais déjà dit avant le repêchage quand le Canadien avait passé sur Michkov.
Les Canadiens doivent prendre Michkov. Si les Canadiens ne prennent pas Michkov, c'est la pire erreur des 20 dernières années. Si les Canadiens ne prennent pas Michkov, ils ont intérêt à avoir une information incroyable, vraiment précise, qui leur dit comme quoi ce gars-là ne viendra pas. Parce que Michkov, c'est le meilleur joueur russe depuis Alex Ovechkin, et j'en ai pas vu aussi bon que lui depuis peut-être lui et Pavel Bure. Michkov, c'est un phénomène. Moi, je l'ai vu jouer des tonnes de fois. Cette année, ça n'a pas été possible. Et si on se fie à ses stats en vidéo, il n'y a pas baissé à ceci. C'est un phénomène, ce gars-là. Je le prends deuxième derrière Bédard.
Ça, c'est... À notre émission, David avait fait ce commentaire-là quelques jours avant le repêchage. David, quand tu avais fait ton mock draft, tu avais dit qu'elle allait être disponible au cinquième rang pour le CH. Et tu avais fait ce message-là que le Canadien se devait de le prendre. Tu voulais revenir là-dessus, David. Et maintenant, tu vois Michkov, comment il joue en ce moment, qui a un point par match, le genre de joueur qu'il est. C'est quoi ton opinion maintenant sur ce dossier-là, le fait qu'on a passé dessus et autant de succès?
Je vais revenir. Merci, Georges. Je veux revenir là-dessus. Puis essayer de fermer la parenthèse une fois pour toutes, puis après le futur, on réagira une fois que leur carrière sera avancée ou terminée. Je vais donner plus d'informations à nos auditeurs parce que, premièrement, j'avais fait cette déclaration un mois et demi avant le repêchage. C'était début mai et le repêchage était au mois de juin. Il y avait une raison pourquoi j'avais dit tout ça et je vais la partager avec vous plus en détail. Deuxièmement, si vous vous souvenez, possiblement pas, mais le 14 avril, si ma mémoire est bonne, 2023, donc encore un mois avant ma déclaration sur Demidov, sur Michkov. J'avais déjà dit en primeur à notre émission que les Canadiens étaient en amour avec Ryan Backer. Je l'avais dit, j'avais l'information, vous savez que je suis en Europe depuis 2020. Et j'ai dit, je sais que les Canadiens adorent Ryan Backer, mais ils prendront seulement s'il est sixième en montant. Pourquoi? Parce que j'avais dans ma liste cinq joueurs qui était dans un autre niveau, et par la suite un deuxième tiers, ou si vous préférez un premier tiers, qui était Bédard Michkov, un deuxième tiers quasiment pareil, et par la suite des autres. Le premier d'entre eux, Ryan Backer, pour les Canadiens de Montréal. Je ne pouvais pas concevoir le fait que les Canadiens n'allaient pas prendre Michkov s'ils avaient la chance de le prendre. Maintenant, pourquoi est-ce que je me suis avancé six semaines avant, et j'ai donné tellement de mon cœur, d'énergie, pour aller jusqu'à communiquer avec les Canadiens de Montréal quatre heures avant le draft même pour leur donner mon opinion, pour leur dire écoutez, prenez ce gars-là. Et c'est pas parce que je suis mieux qu'un autre ou parce que j'ai la tête enflée de dire qu'ils devraient m'écouter à moi. Mais il y avait une raison simple, les amis, que peut-être vous ne savez pas. Georges le sait, Gonzo aussi. Moi, je suis en Europe depuis 2020. J'ai vu Michkov jouer approximativement 13 fois entre 2021 et 2023. Dont trois fois au championnat U18 et 10 fois en Russie en 22-23. Maintenant, pourquoi c'est si spécial? C'est parce que j'avais la possibilité de rentrer en Russie pour mes affaires, en affaires. J'ai le passeport nécessaire pour le faire et c'était impossible pour les 32 équipes de le faire. Pourquoi? Il y avait la guerre en Ukraine, il y avait le COVID, donc il y avait des interdictions de rentrer pour tous les pays d'Occident en Russie. J'avais la capacité de rentrer, moi. Et j'ai eu la chance de faire des affaires en Russie pour certains de mes joueurs dans d'autres dossiers et qui a fait en sorte que j'ai pu voir Michkov jouer à plusieurs reprises dans la MHL et dans la KHL sur cette période de temps où les autres n'ont pas pu. Donc, je l'ai vu jouer contre Spartak à Moscou, je l'ai vu jouer contre Admiral, contre le Dynamo. J'ai vu ce gars jouer de mes yeux, ce que la plupart des recruteurs et des équipes n'ont pas pu faire. Donc, je me suis permis de m'avancer, comme je vous ai dit, lors de l'émission, et pourquoi j'ai tellement dit Michkov, c'est un joueur spectaculaire, et j'ai vu des choses incroyables, et j'ai vu le talent de Michkov, et j'ai vu l'exceptionnel qu'il était, et je me suis dit, les Canadiens de Montréal, lui, dans son prime, comme tu as dit, Georges, c'est un gars de 82 points cette année à son année recrue. On s'entend qu'il va certainement être un gars qui va faire dans son prime 100 points et plus par saison, que les Canadiens n'ont pas eu depuis Matsunashvili en 85, donc 40 ans. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai tellement poussé ce dossier-là. Et ça n'a rien à voir avec Ryan Backer, Demi Dogs l'année d'après, les autres 27 joueurs qui ont passé par la suite. Ça n'a rien à voir. La réalité, c'est que, pour répondre à la question que les gens m'écrivent sur mes réseaux sociaux constamment, ben alors pourquoi il y a 6 équipes qui l'ont passé? La question, elle est bonne. La réalité, c'est que Bédard, Carlson, Fantilli et Smith, les 3 joueurs de centre après Bédard, sont des joueurs qui peuvent avoir des carrières aussi intéressantes que Mishkov à leur manière. Et ce sont des joueurs de centre. Donc, si Canadien aurait pu aboutir avec un de ces 4, j'ai pas de problème à ce qu'ils prennent pas Mishkov. Exemple, Carlson pourrait être un Getzlaf, et Mishkov pourrait être un Selanne. Ça veut pas dire que les deux s'équivaut pas sur une carrière. Donc, en bref, pour terminer, c'est la raison pourquoi les 4 premiers l'ont pas pris. Les Canadiens l'ont pas pris naturellement. Et si Machev Arizona, lui, c'est vrai que l'Arizona, ils lui ont dit qu'ils n'iront pas en Arizona. C'est la seule raison pourquoi l'Arizona n'ont pas pris Mishkov. Mais à part ça, et à part juste, c'est les Flyers. Donc, dans l'ensemble, mes amis, je viens de vous résumer le tout de l'histoire et la raison pourquoi laquelle j'ai tellement poussé ce dossier pour que les Canadiens aillent chercher ce joueur si talentueux qui va, pour les prochaines années, être une super vedette dans la Ligue nationale, mais qui jouera ailleurs qu'à Montréal.
Ah ouais, c'est un dossier qui est complexe, celui de Mishkov, David. Et là, c'est incroyable les réactions aussi sur tout ce que tu viens de dire. On se rappelle que même au début de l'année, je veux dire, après Bédard, c'était Mishkov qui était là, mais sa cote a chuté en raison du fait que les gens ne pouvaient pas le voir, en raison du paternel, en raison de l'attitude et tout le reste. Mais aujourd'hui, ben, on voit un peu le résultat. L'autre question qui vient, David. Tu as parlé de Ryan Backer, on va en parler dans les prochains instants. Parlons un peu de Demidov. Parce qu'ils sont souvent comparés, parce que le partisan du Canadien de Montréal parle beaucoup de Demidov et Mishkov, qui sont les deux espoirs russes. Qui aura, à ton avis, une meilleure carrière entre Mishkov et Demidov dans la Ligue nationale de hockey? C'est sûr qu'on se projette, c'est de l'opinion, mais c'est intéressant pas à peu près.
Ben moi, ce que je me dis, c'est que là, on a parlé d'un gars qu'on n'a pas repêché, donc on l'a perdu. Ça n'a rien à voir avec Demidov. Maintenant, si on veut comparer Demidov à Mishkov, si tu me donnes le choix entre les deux, malgré tout, je prends Demidov. Et la raison, elle est simple.
Wow.
C'est que Demidov, pour moi, c'est un joueur beaucoup plus complet que Mishkov. Plus grand, plus gros, plus raisonnable, plus cérébral, meilleur joueur défensif, donne plus de lui-même, meilleur gars d'équipe dans l'ensemble. Mais qui sait qu'il y aura une meilleure carrière au niveau des points? Possiblement Mishkov. Donc peut-être que Mishkov va être ce gars de 110 points. Peut-être que Demidov sera un gars de 90 points. Mais dans mon équipe, je veux le gars qui va m'amener à gagner des championnats, qui va être un bon gars dans la chambre, qui va aider. Je dis pas que Mishkov peut pas devenir ça. Mais dans l'ensemble, un joueur plus complet, un joueur d'équipe, un joueur vraiment qui a toutes les facettes, qui a plusieurs habilités, c'est Demidov. Et Mishkov, c'est comme je disais avant, tu veux Teemu Selänne ou tu veux Ryan Getzlaf? Est-ce que tu veux Ovechkin ou tu veux Malkin? Quel genre de joueur est-ce que tu cherches? La réalité, c'est que Demidov, c'est le joueur complet. L'attaquant polyvalent qui a plein de belles qualités et est parfait, travaillant tout ce que tu veux. Mishkov, c'est un stud. C'est le gars qui marque, c'est le gars qui est un sniper. C'est un gars qui est compétitif. Mais il n'y a pas les autres attributs. Il n'est pas aussi gros, il est 5 pieds 10. L'autre est plus gros, possiblement Demidov va être meilleur dans les séries. Donc, dans l'ensemble, j'irais possiblement, je préfère Demidov dans mon équipe. Mais c'est certain que Mishkov, j'aurais pas dit non à un punch Demidov-Mishkov à Montréal.
David, ouais, personne. Parce que nous autres non plus, on n'aurait pas dit non à ça. David, à travers tout ça, tu sais, Ryan Backer qui est blessé, à quel point, tu sais, puis les gars blessés ou pas, ils lisent tout, puis sont au courant de tout ce qui se passe. À quel point le succès de Mishkov en ce moment lui met de la pression sur lui, même s'il n'est pas à blâmer sur ce qu'il a dessus.
C'est énorme, les gars. Et les gars, énorme. Énorme. Politiquement, les gens vont dire, ah non. Vous demandez à Ryan Backer, il va dire, non, moi, je fais ma petite affaire. C'est pas vrai. Ce gars-là, il va être détruit s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. La réalité, c'est que ça n'a rien à voir avec les 27 autres joueurs que les Canadiens auraient pu prendre, autre que Ryan Backer, qu'on aurait dit la même affaire sur les 27. Ça n'a rien à voir avec Ryan Backer. D'ailleurs, ce que je vous ai dit un peu auparavant, le 14 avril, je vous ai dit les Canadiens adorent Ryan Backer. Donc Ryan Backer n'a rien à voir avec Mishkov. Mais c'est un peu comme si on revient en arrière, on l'a vécu à Montréal. Pour les gens un peu dans la quarantaine, souvenez-vous, ou la cinquantaine, souvenez-vous du repêchage de Doc Wickenheiser en 1980. Les Canadiens ont pris Doc Wickenheiser, ils n'ont pas pris Denis Savard. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Denis Savard est devenu un Mishkov et plus. Wickenheiser, le regretté Wickenheiser, sa meilleure saison a été 55 points. Puis dès sa première année, sa deuxième et sa troisième, on a déjà commencé à dire « mais Savard et Savard et Savard ». Mais pensez que ça n'a pas joué dans la tête de Wickenheiser, ça?
Oh, c'est ça.
Pensez que ça n'a pas aidé?
Ah, ouais.
C'est la même affaire qui est en train d'arriver. Donc là, il y a du damage control à faire. Pour s'assurer, premièrement, ce gars, ça va mal. L'année dernière, il n'a pas joué bien à Kloten. Cette année, il est blessé 6 mois. Il va falloir qu'il revienne d'une grande blessure. Il va falloir qu'on enlève tous les standards de futur top 2. Qu'on dit, ce gars, il va faire son possible avec le temps. Faut enlever la comparaison qu'on a avec Mishkov. Parce qu'à mon avis, Mishkov vient de prouver qu'il va être une vedette dans la Ligue nationale, ce que possiblement Ryan Backer pourra pas prouver pour un minimum de 3 à 5 ans à partir d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va commencer à bâcher Ryan Backer pour les 5 prochaines années? Non, il faut accepter ce que la décision que les Canadiens ont prise, et les Canadiens doivent accepter. Arrêtez les cancans qu'il n'a pas voulu venir à Montréal. C'est de la... je vais pas dire le mot. Les Canadiens n'ont pas voulu prendre Mishkov, c'est terminé. Ça revient sur leurs épaules à eux. C'est une décision qu'ils ont prise, doivent vivre avec. C'est pas aux jeunes de vivre avec la pression. La pression doit être dirigée vers les Canadiens de Montréal. Et en espérant qu'ils ont pris la bonne décision, et que d'ici 3 ans, Ryan Backer va devenir un défenseur établi solide top 4, et on va dire ça sera pas une vedette ou ça sera pas un Mishkov, mais c'est une composante d'une équipe gagnante.
Numéris le confirme. C'est plus qu'une rumeur de Georges. L'armée de Larac et Gonzo double ses parts de marché chez les hommes 25-54. La franchise Larac Gonzalez n'a jamais été aussi big. BPM Sport. Maintenant la radio de sport numéro 1 au Canada.
Bon, de retour avec notre ami David Etegui. David, d'ailleurs, je pense que la première portion de la conversation a fait réagir et pas à peu près là, sur la messagerie texte. Des gens qui voudront sûrement se prononcer aussi un peu plus tard. C'était excellent. C'était du bonbon. Les gens ont aimé. Maintenant, David, on change de registre et on revient là-dessus parce que c'est un sujet dont tu nous avais déjà parlé aussi il y a quelques années. Et Georges est retourné là hier pour le fun avec Crosby et le marché de Montréal. Je sais qu'on avait déjà parlé, je m'en rappelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sidney Crosby et le marché de Montréal? Est-ce que pour les gens qui n'y croient pas, ça peut devenir une réelle possibilité?
Ben, c'est certain, c'est une possibilité. Tout est possible dans la vie. Surtout quand on sait que Sidney Crosby, son rêve, c'était de jouer pour les Canadiens de Montréal. Je vous en avais parlé justement, comme tu dis, Stéphane, il y a quelques années, pour vous dire comme quoi qu'il avait l'intention de recevoir une offre des Canadiens de Montréal lorsqu'il était UFA et un joueur des Canadiens de Montréal lui avait déconseillé de venir à Montréal. Donc ça, c'était horrible, mais ça fait quelques années de ça, c'est l'histoire ancienne. Mais Crosby, son marché préféré, c'est Montréal. C'est un peu comme Tavares avec les Maple Leafs de Toronto. Il voulait jouer pour les Maple Leafs. C'est la même chose que Crosby. Maintenant, la réalité, c'est de savoir. Crosby a quand même 27 points en 30 matchs. Il s'en va vers une saison de 80 points. Moi, je pense que c'est un gars qui va encore te donner... Il y a un minimum de 3 saisons qui va donner entre 70 et 80 points. S'il intègre un marché comme Montréal, Crosby devient ton deuxième joueur de centre. Un gars qui te donne 70-80 points. Un leader incroyable. Il amène les Canadiens à un autre niveau, là. Les Canadiens, soudainement, c'est une équipe des séries. T'amènes Crosby demain. Les Canadiens ont un meilleur surrounding pour Crosby à Montréal qu'à Pittsburgh, je crois. Surtout dans les 2 prochaines années. Donc, les Canadiens seraient une équipe des séries automatiquement avec un gars comme Crosby. Maintenant, la réalité, les Canadiens ne sont pas encore une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley. Et ce que je pense qui défavorise les Canadiens, c'est que si Crosby, à mon avis, je pense qu'il va terminer sa carrière à Pittsburgh, mais advenant le cas où non, il déciderait de partir, Je pense que ça va être pour donner un, deux ou trois autres saisons une possibilité de gagner une autre Coupe Stanley. Et je ne pense pas que Montréal serait le marché prédéfini pour le faire. À moins que les Canadiens, c'est eux qui ont la réponse à ça. Si les Canadiens sont capables de jouer au-dessus des espérances jusqu'à la fin de la saison, ils sont capables de rentrer les jeunes, et la saison prochaine, en début de saison, ils commencent à jouer en fou. Tout est possible. C'est les Canadiens qui vont répondre à la possibilité de savoir si Crosby peut venir à Montréal. C'est sûr que dans le scénario actuel, je ne pense pas qu'il voudrait. Mais son rêve, c'est de jouer pour les Canadiens.
Là, David, on a parlé beaucoup de ce fameux deuxième joueur de centre du côté du CH. Avec Dak, ça n'a pas l'air de fonctionner. Fait que, si c'est vraiment pas le cas, là, ben pour toi, ça va se faire par transaction ou joueur autonome?
Ben, c'est sûr. Pour moi, ça va être transaction. C'est la logique. Puis la réalité, c'est que j'espère que Dak, ça va marcher, mais plus les jours passent, plus ça a l'air impossible. Ouais. Mais si on regarde l'organigramme des Canadiens, au centre, on a du beau talent, là. On a Kapanen, on a Beck, qui est incroyable à Laval, on a Hage, qui est incroyable dans le NCAA. Mais Hage est à 4-5 ans de faire une différence comme joueur de centre dans la Ligue nationale. Beck et Kapanen sont étiquetés beaucoup plus des gars de troisième centre, de haut calibre, mais pas des deuxièmes centres de haute qualité. Donc les Canadiens n'auront pas le choix. Maintenant, pourquoi par transaction? Joueur autonome, tu payes beaucoup d'argent, beaucoup d'années pour une personne en fin de carrière. Je ne pense pas que c'est l'optique des Canadiens. Ce n'est pas l'idéal. Les Canadiens, ils ont trop d'assets, les amis. Ils ont du beau talent à plusieurs positions, des jeunes. Ils ont beaucoup de choix au repêchage. Ils ont des choix de première ronde. Ils ne pourront pas faire jouer tous ces gars à l'intérieur des prochaines années sur un roster de 23 joueurs. Ils ne pourront pas signer tous ces gars et faire jouer tous ces gars. Donc, tu fais quoi? Tu les laisses partir? Non. Tu packages plusieurs postes de calibre A avec des choix, et tu vas chercher ce joueur de centre numéro 2 que tu as vraiment besoin. Les Canadiens ont tous les outils pour aller chercher un joueur de centre numéro 2 de qualité cette entre-saison s'ils veulent, sans problème. Donc je pense pas que c'est un problème pour eux, mais je pense que ça va beaucoup plus passer par une transaction que par un joueur UFA autonome.
Ouais, et tu sais, on sait à quel point aussi c'est difficile d'en attirer à Montréal, même si tu le surpayes. Je ne veux pas dire qu'ils vont vouloir dans cette situation de reconstruction, mais c'est un sujet qui est super intéressant, David. Allons faire un petit tour au Colorado maintenant. Peut-être une première partie de la question. Comment tu as trouvé le revirement de situation pour le Colorado et ses échanges de gardiens de but? C'est jamais vu, David, ce qui se passe là-bas, de changer de deux gardiens de but comme ça. Et la sous-question, est-ce que le Canadien de Montréal, lui, devrait au moins aller chercher un gardien de but ou tu prends de la patience pour cette saison?
Non, pas. Moi, je pense que le Colorado, là, ont une fenêtre de victoire.
Ouais.
C'est là. Ils n'ont pas le choix. Ils ont créé un électrochoc. Ils doivent aller chercher un gardien qui va pouvoir leur faire gagner, changer l'ambiance. Ils n'ont pas le choix. Les Canadiens de Montréal ne sont pas dans leur fenêtre de victoire de la Coupe Stanley. Les Canadiens sont en progression. Il y a un beau talent à Laval. On a Monty qui est en train de jouer comme un numéro un. On sait que Fowler, c'est un des meilleurs prospects au monde à venir comme gardien de but. Donc, on va donner le temps. On a 3-4 ans avant d'avoir un Fowler en pleine forme à Montréal. Monty va continuer. Il y a des gars à Laval. Maintenant, si jamais on tombe au ballottage sur un gardien qui est intéressant, qu'on a laissé aller pour rien, chercher pour pas cher, qu'on décide que c'est fini l'histoire primo, qu'on rentre un vétéran, parfait. Mais on commence pas à chambouler ou, dans ce cas-ci, donner des assets de qualité pour aller chercher un gardien numéro 2 ou même un gardien supposément numéro 1 dans le cas où il y a Monty à l'heure actuelle. Je pense que le futur des Canadiens de Montréal, c'est Fowler. C'est la future vedette dans les filets pour les Canadiens et ça va prendre à peu près 3 ans.
Puis David, pour finir, on a parlé beaucoup de Lennartson hier. Pour toi, quand il va atteindre son plafond, son maturité, tu vois faire combien de points de façon régulière à chaque année?
Ben là, 21 points en 30 parties dans la Ligue nationale. Il s'en va pour 57 points. Moi, je pense qu'on le voit, ça va être un gars d'un point par match, George. Moi, je pense que dans son prime, ça va être 82 points. C'est pas McCarr, je pense pas. Il marque pas autant. Un peu moins Hughes. Je pense que ça va être un gars qui va te donner 80 points, qui est incroyable. Ça va être un des 5 meilleurs de la Ligue, offensivement facile, ou même un des 3 meilleurs défenseurs. Et je pense que lui, son cap, ça va être à peu près ça. Mais les Canadiens, on peut les blâmer pour ne pas avoir pris Mishkov. On peut les féliciter pour avoir pris Lane Hudson en deuxième ronde. Donc, en bout de ligne, on est ici pour pour donner des commentaires, notre point de vue, notre expertise qu'on a vécu. Mais à la fin de la journée, c'est pas une science parfaite. On n'est pas là pour blâmer nécessairement que les Canadiens dans ce qu'ils font, mais aussi dire les bons coups qu'ils ont fait. Lane Hudson, c'est un home run. Donc, ce qu'ils ont perdu d'un côté, peut-être qu'ils l'ont récupéré de l'autre.
Effectivement, on tient à rappeler que c'était loin. Hein? On a repêché des joueurs avant Lane Hudson chez le Canadien de Montréal, mais c'est un encan qui sera important, je pense, pour la reconstruction du CH. David, toujours un plaisir. Écoute, ça a été énormément de réactions aujourd'hui. C'est le fun de pouvoir te parler comme ça. Bon retour. On espère que la santé est bonne et on se reparle très bientôt, mon ami.
Merci, David.
Tranquillement. Merci beaucoup, les amis. Bonne semaine à tous.
Merci, yes. David.
David et Tegui.
Hey, en tout cas, Gonzo, je vais te dire, sa chronique aujourd'hui, elle a fait exploser un messagerie texte. Si on ouvrait les lignes là, on pourrait t'occuper toute la journée avec ça.
Ouais, et beaucoup de gens réagissent, bien sûr, sur Mishkov, là, Mishkov et Davidov. C'est tellement intéressant de savoir aussi si le Canadien avait repêché Mishkov, est-ce qu'on aurait repêché Davidov, tu sais?
Moi, je pense que oui. Non, mais moi, ce que je pense...
Parce qu'on se rappelle à l'époque...
Non, mais moi, ce que je pense, par exemple, c'est que si on avait fait ça, puis que les gens auraient vu que Mishkov vient l'année d'après, ben, le monde n'aurait pas eu peur. Parce que, oublie pas, hein, Mishkov, c'est surtout l'affaire du 3 ans.
Ben oui.
Puis là, il est venu l'année d'après. Fait que là, Davidov va être repêché. Au cinquième rang, il n'aurait pas été disponible.
Ah, je sais pas. Je sais pas s'il aurait été disponible, mais... Ah, comment dire ça? Chez le Canadien de Montréal, on sait qu'on voulait un joueur de centre aussi. Fait que, tu sais, on a essayé de monter pour aller chercher Fantilli, pour aller chercher Carlson, pour aller chercher Will Smith. Ça n'a pas fonctionné. On voulait pas être pris avec cette position-là. Exactement. De dire Mishkov ou pas Mishkov.
Ouais.
On voulait laisser le dilemme à quelqu'un d'autre pour essayer de prendre un de ces quatre joueurs de centre.
On voulait éviter exactement ce qui arrive cette année-là.
Ah, et là, malheureusement, tu vois, on a tranché. Puis dans le documentaire du repêchage, on le voit très bien. Quand Jeff Gorton dit, alors ce que je comprends, c'est qu'autour de la table, c'est unanime. Et vous avez fait votre choix. Là. Si quelqu'un veut se manifester, levez la main. Puis finalement, ils ont pris Ryan Backer.